comment ça va? J'espère que vous allez bien cette semaine. On aimerait vous saluer et certainement saluer ceux qui sont en visite, comme Gilles l'a souligné tantôt. Et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Il y a des églises qui nous écoutent en ligne aussi. Il y a des individus, mais certaines églises aussi, où il n'y a pas de pasteur. Alors, on est bien content de pouvoir les servir de cette façon-là. Alors, vous savez ce que j'aime? Tim Matin. Oh! Bacon, muffin anglais. Des fois, on se fait des surprises comme ça, Lise et moi, on aime ça. Samedi matin, de temps en temps, ce qu'on va faire, c'est que soit Lise va m'offrir ou moi, on dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on irait chercher un Tim Matin? Bacon, ça commence, hein? Vous allez commencer à avoir faim, là. Muffin anglais. Alors, OK, mettons que c'est moi, j'embarque dans la voiture, et puis, je vais au Tim. Et puis, j'arrive dans le stationnement de Tim. Et puis, je me suis dit, bon, mais regarde, je vais aller service à l'auto, ça va aller plus vite et tout ça. Puis là, tu t'installes. Là, tu regardes devant toi. Puis, entre 7 et 10 voitures en avant de toi. Oh! Aimes-tu ça, attendre? C'est éprouvant, attendre. Personne n'aime ça, attendre. Je ne connais pas personne qui aime attendre. Tu sais, tu t'en vas à la pharmacie, tu veux renouveler ta prescription, tu t'en vas dans le département en arrière, là, tu donnes ta prescription et tout ça. Tu attends une demi-heure avant d'avoir ta prescription. Ma femme est allée l'autre jour à la banque, une heure et quart avant de se faire servir. Et qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu es pris comme ça pour attendre? Bien, tu essaies de tuer le temps. Alors là, tu vas trouver toutes sortes d'activités. Il y en a qui vont aller voir des réseaux sociaux, vont aller voir leur courriel, vont aller voir des jeux. Il y a des jeux sur le cellulaire maintenant et tout ça. Tu vas aller voir ça, tout ça, tu sais. Alors, tu fouilles. L'autre jour, j'étais à la clinique médicale, pas loin de chez nous, un check-up annuel, rien de sérieux, juste un check-up annuel et tout ça. À côté de moi, il y avait deux femmes qui attendaient, comme moi. Et puis là, elle avait son iPad. Ils étaient ensemble, ils attendaient pour être appelés. Et puis, l'une d'elles avait un iPad. Alors, elle dit à l'autre, « Aimerais-tu ça qu'on joue un jeu de patience en attendant? » Un jeu de patience. Non, mais ça fait bizarre, ça. Je ne sais pas pour vous autres, mais quand je suis obligé d'être patient, je ne m'amuse pas. C'est frustrant. C'est difficile d'attendre. Puis, ça prend de la patience. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler d'une haute sorte d'attente. En fait, j'aimerais parler de la salle d'attente de Dieu. Attendre fait partie de notre vie, on ne peut pas l'échapper, on ne peut pas le contourner. Même on aimerait bien ça, accélérer les choses, mais des fois, on n'a vraiment pas le choix. Et parfois, on est comme le petit gars, vous savez, à la veille de Noël, il attend, il y a le sapin de Noël, puis il y a les cadeaux en bas, là, puis il attend. C'est la nuit la plus longue de l'année, il attend pour ouvrir ses cadeaux le lendemain matin. On sent comme ça parfois. Il y a des moments dans notre vie où on ne peut pas accélérer les choses, mais on aimerait bien. Puis, ce n'est pas amusant à attendre, mais c'est une partie incroyablement importante pour notre vie, puis ça ne peut pas être précipité. On va voir justement qu'est-ce que ça signifie, puis on va voir aussi comment bien attendre. Car oui, on peut apprendre à bien attendre ces moments d'attente. L'apôtre Paul et les passages que nous avons vus récemment, puis le passage qu'on va voir ce matin, justement, nous en parle. Parce que si on n'apprend pas à bien attendre, on ne fera jamais l'expérience de tout ce que le Seigneur a pour nous. Alors moi, j'aimerais commencer la lecture avec un chapitre, un passage qu'on a lu, et on va commencer avec ça pour nous remettre dedans, et puis on va regarder un autre chapitre après, d'accord? Alors, acte 24, on va lire le verset 24. Acte 24, verset 24. Quelques jours plus tard, alors Paul était sous la garde romaine, il y a des Juifs qui voulaient le tuer et tout ça, alors il est à la garde romaine, il est arrêté. Alors, quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit, « Retire-toi pour le moment. » quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Alors, on va tourner dans le chapitre 25, maintenant un peu plus loin, au verset 21. 25-21. On prend donc cette histoire un peu plus tard. « Mais Paul a fait appel pour que sa cause soit portée à la connaissance d'Auguste. J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à l'empereur. » Agrippa dit à Festus, « Je voudrais entendre moi-même cet homme. »« Demain, tu l'entendras, » répondit-il. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les commandants romains et les hommes importants de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la foule des Juifs s'est adressée à moi, tant à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. Or pour ma part, j'ai constaté qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. » Mais comme il en a appelé lui-même à Auguste, j'ai décidé de le faire partir. Cependant, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. En effet, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Dans les chapitres 23, verset 12 jusqu'au chapitre 26, verset 32, on se retrouve avec 3 chapitres qui durent 2 ans. Et il ne se passe vraiment rien d'éclatant. C'est une bonne façon de décrire ce qui se passe pendant ces 2 ans-là. Vraiment rien de spécial. Paul passe ses 2 ans, il est là, à Césarée. Ça a commencé avec le chapitre 21, alors que Paul fait le bien, mais a des résultats épouvantables. Il va au temple pour remplir un vœu qu'il avait fait, puis un sacrifice et tout ça. Il avait des bonnes intentions. Il voulait montrer aux chefs religieux qu'ils n'étaient pas contre la communauté juive, ni contre le temple, ni contre la tradition juive. Mais là, il y a une rumeur qui a commencé à circuler à l'effet que lui, il aurait laissé rentrer un non-juif dans le temple, ce qui était interdit. Alors, il y a une émeute qui a suivi. Il est arrêté. Les gardes lui permettent de s'adresser à la foule. Espérant de pouvoir calmer la foule et les convaincre qu'il n'était pas contre la communauté. Et il espère qu'ils vont comprendre ce qui le motive. Mais dès qu'il commence à parler de Jésus, que Jésus est le Messie, le Sauveur, et qu'il est venu non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, oh mon Dieu. Là, c'était trop, une autre émeute se déclenche, il est arrêté pour un temps, puis les autorités vont l'envoyer dans un endroit qui s'appelle Césarée. À ce moment-là, le Seigneur lui dit, « Ce que tu as vécu à Jérusalem, Paul, tout le témoignage que tu m'as donné, etc., tu vas faire pareil à Rome. » C'était toute une opportunité, ça. Et là, il apprend qu'il y a un groupe d'environ 40 personnes qui ont fait le serment de mourir s'il le faut. Ils vont même s'abstenir de manger jusqu'à ce qu'ils tuent Paul, car ils pensaient que Paul serait escorté jusqu'à Césarée par la garde romaine en plein jour. Maintenant, ça arrive aux oreilles des autorités romaines. Paul se fait donc escorter. Il quitte la ville à cheval, entouré de près de 470 soldats. Eh mon Dieu, c'est incroyable. Il va passer 2 ans à Césarée, et Césarée, c'était le quartier général des forces armées romaines en Palestine. Pendant ce temps-là, il va parler à Félix, le gouverneur, à quelques reprises. Il va donner son témoignage. Il a l'occasion de vraiment faire ça, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de fruit. L'historien romain Tacite qualifie Félix d'un gars cruel et enclin à la débauche. Et comme de fait, on le voit dans le texte, comme quoi il a essayé de tirer un pot de vin de la peau de Paul pour essayer de le libérer, etc. Il a essayé de profiter de son arrestation, finalement, de faire un peu d'argent. On peut lire ça justement dans Actes 24, 26. Félix espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Festus, dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laisse Paul en prison. Paul va aussi partager l'Évangile à Festus, mais encore là, aucune réponse, aucun fruit. Ensuite, c'est au tour du roi Agrippa qui détenait l'autorité sur le secteur juif. Paul lui présente l'Évangile, mais là encore, aucune réponse, aucun fruit. 2 ans à attendre. Mais à première vue, ce passage-là, tout ce passage, ces trois chapitres semblent être une sorte d'histoire, une leçon d'histoire. Mais en fait, il nous enseigne des leçons pas mal importantes sur la façon de bien attendre. On a besoin d'apprendre à mieux attendre, car on vient à croire souvent que le calendrier de Dieu ne va pas assez vite. Des personnes m'ont déjà dit ça. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Mais Dieu a un plan. Et Dieu travaille toujours. Dieu est toujours à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici sur la leçon de mieux apprendre? Eh bien, l'art de bien apprendre se développe, mais il faut suivre quatre instructions importantes. Voici la première. J'ai besoin de comprendre que l'attente, ce n'est pas une perte de temps. Mais c'est une partie essentielle de notre parcours spirituel. Nous voyons souvent les attentes comme une perte de temps, mais ça ne l'est pas. Ça fait partie de notre développement spirituel. Tout d'abord, l'attente vérifie la qualité de notre foi. Ça nous permet de gager la qualité de notre foi. Lorsque Dieu donne une instruction, comme c'est le cas avec Paul et sa mission à Rome, et que ça n'arrive pas tout de suite, ça ne bouge pas, on se retrouve dans une situation où notre foi est éprouvée. Est-ce que je fais assez confiance en Dieu pour faire ce qu'il me dit, continuer de faire ce qu'il dit, même quand les choses n'avancent pas, même quand les choses ne fonctionnent pas? Vous savez ce qui arrive, hein? Même si Jésus est notre sauveur et que la Bible est la parole de Dieu, quand les choses n'avancent pas, lorsqu'on se retrouve dans la salle d'attente de Dieu trop longtemps, on est tenté de mettre tranquillement de côté la parole de Dieu et Dieu. Et au lieu de nous fier à Dieu pour avoir sa sagesse, on prend les choses en main. Et quand ça arrive, je ne suis pas en train de faire confiance à Dieu, je ne le vois plus comme un maître, comme mon maître, mais comme un consultant. C'est un manque de foi. Alors, comment connaître la qualité de ma foi, sinon qu'en l'éprouvant dans la salle d'attente de Dieu? Tu regardes deux pièces d'or, une imitation puis la vraie. Prends un marteau et frappe l'imitation, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se briser. Mais prends le marteau et frappe la vraie pièce, la pièce authentique, qu'est-ce qui va arriver? Elle va se travailler, tout simplement. Si tu prends un diamant réel et tu le chauffes pendant 30 secondes jusqu'à ce que ça devienne très chaud, tu le déposes dans l'eau froide, il n'y a rien qui va se passer. Tu prends par contre la même chose, avec une imitation, ça va se briser. Quelqu'un a dit ceci, « La seule différence entre le charbon noir et un précieux diamant est la quantité de pression qu'il a endurée. » Dieu permet de telles épreuves dans notre vie. Il nous laisse parfois un bon moment dans la salle d'attente afin d'éprouver notre foi. Et le but, ce n'est pas de savoir jusqu'où on peut aller, là. Parce que si notre foi est réelle, je vais fonctionner en fonction de la force que le Seigneur va me donner. Apprendre à faire confiance à Dieu et lui obéir, même quand les choses ne fonctionnent pas, quand rien ne change, c'est là que le Seigneur veut nous emmener. Jacques 1:2 dit ceci. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » J'aime bien ce que Zig Ziglar a dit à ce sujet. Il dit, le plus important, dit-il, ce n'est pas ce qui nous arrive ou ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Quel est donc l'état d'esprit idéal? Voici ce que je choisis de croire, dit Ziglar. Il va se produire dans ma vie des choses que je n'aime pas, qui sont dommageables, nocives, et destiné à m'abattre. Je vais essayer des choses et me donner à fond, et pourtant, dans de nombreux cas, je vais échouer. Et pourtant, je sais sans l'ombre d'un doute que ce que le malin a voulu faire pour nuire, Dieu le fera fonctionner pour le bien. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'en serai plus fort et mieux à même d'accomplir sa mission. Plutôt que d'avoir un esprit de peur, de timidité et de fragilité, je choisis de savourer les épreuves, d'accepter l'échec et de grandir grâce à ce processus. Je choisis d'être anti-fragile. Je choisis de gagner. Amen? Hey! Maintenant, il existe une autre raison pour laquelle on dit qu'attendre est une partie essentielle de notre parcours spirituel. C'est que l'attente nous prépare aussi pour l'avenir. Tu entends plein de témoignages sur les médias sociaux, des gens qui sont devenus riches du jour au lendemain, là, puis sont devenus millionnaires, etc., instantanément. Mais il n'y a rien d'instantané. Vous savez, quelqu'un a dit, ça prend 15 ans avant d'avoir le succès du jour au lendemain. Ça prend des années. Tu prends des gagnants de la loto, par exemple, qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. Ils ne sont pas tous en mesure de garder leur argent. La raison, c'est que leurs ressources dépassent leur caractère et leur discernement. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a gagné 25 000 $ à la loto. En dedans d'un an, il avait tout dépensé de 25 000 et il était maintenant endetté de 40 000. Le caractère, ça prend du temps à se former, à se travailler. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit que l'un des critères pour être un pasteur ou pour être un ancien, c'est qu'il ne soit pas un nouveau converti. C'est parce que Paul sait bien que ça prend des années à former le caractère d'un homme de Dieu et d'une femme de Dieu. Maintenant, on ne deviendra jamais parfait avant que Jésus revienne, mais on veut grandir, on veut travailler ce caractère afin qu'il devienne de plus en plus à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça prend des années, ça. C'est la même chose avec le milieu de travail. Tu vas avoir une promotion. Mais des fois, tu n'es pas prête à avoir cette promotion-là tout de suite. On a besoin d'un peu plus de temps. Et ce qui est encourageant, c'est de savoir que Dieu est toujours à l'œuvre. Il travaille toujours dans l'ombre. J'aime cette phrase de John Piper que j'ai déjà dit, j'aime tellement. Dieu fait toujours 10 000 choses dans votre vie et vous êtes peut-être conscient de 3 d'entre elles. Dieu est toujours à l'œuvre dans l'ombre. L'apôtre Pierre parle aux anciens dans l'Église et après ça, il aborde des jeunes gens. Et voici ce qu'il leur dit dans 1 Pierre 5, 6. Il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Maintenant, il se trouve deux mots importants ici à retenir dans ce passage. « Afin qu'il vous élève. » Ce n'est pas nous qui nous élevons, c'est le Seigneur. Et ça suit le verset qui est précédent, où il est dit au verset 5, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Puisque Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il déverse sa grâce sur les humbles, il est donc sage pour les croyants de s'humilier. S'humilier, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu et nous serons élevés, c'est-à-dire nous ferons l'expérience de la grâce de Dieu, car Dieu accorde sa faveur à ceux qui reconnaissent leur besoin de lui. L'humilité, dans le contexte d'un Pierre, où les chrétiens souffraient de persécution, ce sont les gens, les destinataires premiers de la lettre d'un Pierre, ils souffraient à cause de leur foi en Jésus-Christ, ils étaient persécutés. Ça signifie pour eux qu'ils doivent vivre leur souffrance, sachant que Dieu est souverain, au lieu de résister, de s'opposer à sa volonté pendant leur souffrance et courir le risque d'abandonner la foi. Pourquoi? Parce que Dieu se sert de la souffrance pour nous faire grandir et parce que notre vie est sous la puissante main de Dieu. Verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Lorsque Pierre dit qu'ils doivent s'humilier sous la main puissante de Dieu, il utilise une expression qui est associée à la délivrance d'Israël de l'Égypte. Deutéronome 4, 34, voici ce que nous lisons. Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir apprendre une nation du milieu d'une autre nation? Par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants. C'est pourtant exactement ce que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte, sous vos yeux. De même que le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte avec puissance et force, de même il peut défendre son Église. Il a tout sous son contrôle. Rappelle-toi donc que tu es sous la puissante main de Dieu. Tu passes par des moments difficiles? Rappelle-toi, tu es sous la puissante main de Dieu. Cette même main, puissante et forte, qui a renversé la plus grande puissance militaire mondiale de l'époque, l'Égypte. Tu es sous cette puissante main. Les croyants s'humilient devant un Dieu puissant. Il est le Tout-Puissant. Et ceux qui s'humilient devant le Seigneur seront élevés. Maintenant, le fait que les humbles seront élevés fait partie de l'enseignement de Jésus. Jésus l'a déjà enseigné d'ailleurs dans Matthieu 23, verset 12, lorsqu'il dit « Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. » Maintenant, le verset que nous avons lu dans 1 Pierre promet l'élévation en temps voulu. 1 Pierre 5, 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Maintenant, lorsque Pierre dit que nous serons élevés au moment voulu, je crois que ce qu'il a en tête, c'est la fin des temps, c'est-à-dire le jour du jugement, le jour du salut, ce que Pierre appelle le dernier temps. Et on n'a qu'à penser aux nombreux chrétiens qui sont morts, martyrs, en raison de leur foi. C'est certainement pas sur terre qu'ils ont été élevés, mais au ciel. En d'autres mots, le jour de l'humiliation, c'est-à-dire les moments où nous sommes humiliés, comme dans le cas ici de ces chrétiens persécutés sur un pierre, en raison de leur foi ou en raison de notre foi, Pierre nous rappelle que nos souffrances sont limitées à ce monde. C'est temporaire. Le jour vient où nous serons élevés bien haut par la grâce de Dieu et pour toujours lorsque Jésus-Christ reviendra. En attendant, on fait quoi? Et on fait le verset 7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Maintenant, d'autres, par contre, croient que Pierre serait en train de nous dire que c'est au cours de notre vie que nous serons élevés. C'est la position, c'est l'explication de Wayne Grudem et d'autres qui commandent ce passage. Et parfois, il le fait, on le voit dans l'Ancien Testament, on n'a qu'à penser à Joseph. On le voit dans le livre de la Genèse. Jeune, on peut dire qu'il était pas mal un enfant gâté, c'était le préféré de papa. Son père lui a même fait un cadeau d'un beau manteau Lacoste. Alors, il s'en va voir ses frères, puis il montre le manteau. « Regardez, vous autres, vous n'avez pas. Vous avez juste des tuniques. Moi, j'ai un beau manteau, bien, beaucoup de couleurs. » Fait que ça n'a pas fait de l'affaire de ses frères. Ses frères l'haïssaient, ils étaient jaloux. Alors, ils l'ont vendu en Égypte comme esclave. Alors, Joseph travaille dans la maison de son maître, puis il est faussement accusé en plus d'abus sexuels auprès de la femme de son maître qui essayait de coucher avec lui. Alors, il est en train de servir dans la maison, son maître n'était pas là, la femme vient, puis tout, elle dit « couche avec moi », puis tout ça. Il dit « non, je ne ferai jamais ça à mon maître, voyons donc, je ne ferai pas ça à Dieu, tu sais. » Elle dit « oui. » Fait que finalement, lui, elle l'accroche, puis lui part à courir, puis elle accroche son manteau, mon ami. Fait que là, elle avait une pièce à conviction, elle avait une preuve. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Marie s'en vient, puis tout ça. Elle dit « hey, elle dit, ton serviteur, ton esclave, a essayé de me sauter dessus, ça. Regarde, j'ai la preuve, j'ai son manteau. » Hey, Joseph. Il est lancé dans encore en prison. Let's go. Prison. Et je te dis qu'il n'y a pas la vie facile. Fait qu'il est en prison. Maintenant, il a tellement eu un beau témoignage en prison. C'est incroyable. Il fait tout ce qu'il faut. Ça va tellement bien en prison que tout porte à croire qu'il va être libéré. Mais son rêve s'effondre. Deux fois. Alors, au moment précis, au moment parfait, selon le calendrier de Dieu, il devient le numéro 2 en Égypte. Deuxième, après le roi. Suite après le roi. Ouais, hein? Dieu l'a élevé. Pas mal. Tu ne peux pas aller plus haut, là. Quelle histoire. Genèse 25 et la suite. Alors que ce soit nos amis, nos ennemis, nos critiques, les personnes qui nous poussent vers le bas, Dieu peut les utiliser pour nous pousser vers le haut. Et c'est ce qui est arrivé avec Joseph. Dieu avait choisi Joseph pour le mettre dans cette position en Égypte afin de protéger l'Égypte et sa famille. Et Dieu s'est même servi de ses ennemis pour l'élever. Et on s'entend qu'au début, Joseph n'était pas prêt à assumer une telle position. C'est après avoir passé toute cette expérience, un long processus, un temps difficile, jusqu'à aller en prison, faussement accusé. Et à travers tout ça, il a grandi, son caractère s'est forgé. Dieu l'a formé afin qu'il soit prêt au temps voulu d'accomplir ce que le Seigneur a préparé pour lui, cette mission et pour les autres. Joseph est un exemple, mais David aussi. Vous vous rappelez David, ce fameux David. On connaît l'histoire, hein, David et Goliath. Mais David est devenu le roi d'Israël, mais il a été loin pour devenir roi, mais ça a pris des années plus tard avant qu'il soit couronné comme roi. Et ça n'a pas dû être facile, perplexe pour lui de toutes ces années d'attente. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est toujours à l'œuvre dans l'ombre. On voit le principe avec certains individus, mais on voit aussi avec Israël, toute la nation. Lorsque Israël est devenu esclave en Égypte pendant 400 ans, lorsque Dieu envoie Moïse pour les délivrer de cet esclavage, il leur dit « J'ai une terre promise pour vous. » Maintenant, Dieu avait déjà donné cette promesse-là des centaines d'années à Abraham, mais il suivait son calendrier, il suivait son plan. Voici ce que Dieu dit à propos de la façon qu'il va leur donner cette terre. Maintenant, ils sont prêts, c'est le temps d'avoir la terre. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont prêts. Et voici ce que Dieu leur dit, Exode 23, 27. Il dit, « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi et chasserai loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. » Et j'entends déjà Moïse dire, « Yeah! On va avoir la victoire! » Mais Dieu ajoute au verset 29, « Mais je ne les chasserai pas en une seule année, loin de toi, sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. » En d'autres mots, Tu n'es pas prêt. Pas de suite. Je n'ai pas fini mon travail. Je suis en train de préparer le terrain. Tu vas voir. Pas de suite. Et un peu plus loin, verset 30, dit, « C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter le pays. » Vois-tu, la salle d'attente de Dieu, même là, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour toi. C'est fou, hein? Il voulait protéger son peuple. Il arrive qu'on se retrouve dans ce genre de situation où on pense être prêt. Et Dieu nous dit, pas encore, pas tout de suite. On se retrouve dans cette salle d'attente où ça avance peu à peu. Et on se dit, bon sang, si Dieu était avec moi, il me semble que ça irait bien plus facile. Eh bon sang, j'entends ça tellement souvent. Les gens m'ont, Dieu m'a oublié. Moi, je prie, ça ne donne rien, ça n'avance pas. Je ne suis pas assez bon pour Dieu. Je vois les autres sont bénis, mais moi, ça n'avance pas. Non. Dieu est toujours à l'œuvre dans l'ombre. Toujours. Et c'est par amour pour nous que parfois il nous fait attendre. Dieu a un rythme différent. Il est en train de nous préparer. Voyez-vous, la salle d'attente de Dieu, c'est jamais une perte de temps. C'est une partie essentielle, vitale même pour notre parcours. L'attente éprouve notre foi, nous fait grandir, elle nous prépare pour l'avenir. Maintenant, voici une autre instruction à suivre dans l'art de bien attendre qu'on a besoin de connaître. On a besoin de se rappeler que la volonté de Dieu contient toujours deux parties, le quoi et le quand. D'accord? Paul était passionné, il se levait, il partageait l'Évangile encore et encore, et je suis sûr qu'à chaque fois, il devait prier avant de partager son message, rempli de l'Esprit. Mais il s'attendait à voir des fruits, puis pourtant, pas de fruits, pas de résultats, ça ne bouge pas dans cette période-là. Mais Dieu a son plan. Et ce plan comprend un quoi, c'est-à-dire c'est le plan, c'est la mission, c'est sa volonté, mais aussi un quand. Et chaque fois qu'on précipite le quand, on rate le quoi. D'accord? À chaque fois qu'on précipite le quand, on rate le quoi. On a tendance à surestimer ce qu'on pense pouvoir faire en peu de temps, alors que Dieu travaille parfois à moyen terme et à long terme, pas toujours à court terme. Lorsque j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse une chose tout de suite, ça pressait, j'ai été surpris de voir tout ce que le Seigneur a fait plus tard, beaucoup plus efficace, bien mieux que moi, avec le temps. Regardez Israël et leur voyage de l'Égypte à la terre promise. Écoutez, Dieu délivre Israël de l'Égypte, puis leur dit, « Je vous emmène à la terre promise. » Hey, c'est un voyage de 11 jours, là. On s'entend, c'est pas long, là. 11 jours. Ça va aller vite. Tout le monde quitte l'Égypte, c'est un voyage simple. 11 jours, fini, on est arrivé à la terre promise. Ça, c'est le quoi du plan de Dieu. On s'en va à la terre promise, je vous emmène à la terre promise. Pour Israël, de quand? C'était 11 jours. Maintenant, on peut lire que le peuple d'Israël voyageait dans le désert et avançait lorsque le nuage bougeait. Ça, c'était une façon pour Dieu de montrer à son peuple, voici, vous suivez le nuage, ça vous donne la direction. Ça, c'est le GPS de Dieu, c'est le Google Map de Dieu pour montrer aux Juifs qui sont dans le désert, suivez le nuage. Je vous dirige vers la terre promise. Maintenant, le nuage arrêtait parfois, et c'est la façon de Dieu pour dire « arrêtez, attendez ». Et on peut lire dans Nombre 9, 17, « Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Ils arrêtaient là, puis ils attendaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient, c'est-à-dire ils arrêtaient, puis ils restaient là, ils attendaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. » Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne partaient pas, ne bougeaient pas, ils attendaient. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois et même 1 an, les Israélites restaient là à attendre, à camper, ne partaient pas. Quand ils s'élevaient, ils partaient. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Maintenant, on pourrait se demander, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi le nuage ne bouge pas? Hey, ça fait 1 an qu'on est ici dans le désert, là, tu sais, comme J'aime pas ma voisine là, qui est de la tante à côté, puis j'aime pas mon voisin à côté. C'est comme, je suis tanné, là. On est seulement à quelques jours de la terre promise. Tu pourrais régler ça pas mal vite, Seigneur. Pourquoi tu nous fais attendre? Et Dieu dit, j'ai un quand, pas juste un quoi. C'est comme ça parfois avec nous. Dieu a un quoi, il a un plan pour notre vie. Mais il a aussi un quand. C'est lui qui sait quand accomplir son plan dans notre vie. C'est la raison pour laquelle on ne devrait jamais faire la mauvaise chose pour avoir la bonne chose. Il nous arrive de ne pas aimer le quand du Seigneur et parfois on peut être tenté de vouloir aider Dieu à accélérer les choses. On fait des compromis pour essayer d'aider Dieu. Mais ce n'est pas profitable, ça n'honore pas le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on marche par la foi, qu'on lui fasse confiance. La salle d'attente de Dieu est donc très importante. On a donc besoin de mettre notre énergie à la bonne place. C'est donc pourquoi on a besoin de suivre la prochaine instruction. C'est de se concentrer sur ce que Dieu veut que l'on fasse et non sur ce que l'on veut qu'il fasse. Lorsqu'on est coincé dans l'attente, concentrons-nous à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Lorsque je suis dans cette zone où je me trouve, où je trouve que Dieu ne va pas assez vite, je ne suis pas capable de comprendre ce qui se passe ou encore je ne vois pas les résultats que j'aimerais, j'ai besoin de développer le réflexe de me tourner vers Dieu et prier, mettre ça dans la prière et demander au Seigneur de me donner la force, de me donner la sagesse que j'ai besoin pour rester ferme, me coller à lui et persévérer. Paul était assez erré pendant 2 ans sans avoir vraiment de fruits. Et quand ça arrive, quand je suis dans la salle d'attente de Dieu, j'ai besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse en attendant? » Ce sera différent selon la situation. Il y a des situations qui sont différentes l'une de l'autre. Parfois, Dieu veut juste qu'on attende. Il n'y a rien à faire, t'attends. Il n'y a pas le choix. Ça me fait penser quand il y a des tempêtes, par exemple. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une grosse tempête? Tu te mets à l'abri. Vous vous souvenez ce qui s'est passé au mois de mai, hein, récemment, là? Il y avait une grosse tempête. Ma femme était à l'étage et puis elle regardait à travers la fenêtre. Puis ma femme regarde la fenêtre et elle dit, « Normand, moi j'étais en bas, elle crie, « Normand, viens voir tout de suite, regarde les nuages, c'est en train de se former, je te le dis, il va y avoir une tornade. » Elle voyait ça par la fenêtre, puis ça, tu sais. Moi j'étais en bas, elle me dit, « Une tornade? Une tornade à Gatineau? » « Ben voyons donc, chérie, ben non, crois pas tout ce que les gens météo disent à la télévision, là. Voyons donc, une tornade à Gatineau, franchement. » Elle dit, « Viens voir, je te le dis, ça commence à se former, puis ça commence à tourner, puis commence à avoir un entonnoir. » OK, franchement, je monte, je regarde, je m'en viens près de la fenêtre, je regarde à travers la fenêtre. Je voyais un entonnoir se former, commencer à tourner. Puis là, je croyais comme un genre de. Ça s'en vient de plus en plus pointu. Et là, tous les deux, on était nerveux, on regardait. Aïe, 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 est-ce que ça s'en vient ici? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? On était là en train de checker, puis là, tu sais. Si on avait vu tout d'un coup ce gros nuage-là, cette s'en venir vers Gatineau, qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait fait? On serait parti à courir dans le sous-sol, se cacher quelque part entre je sais pas trop quoi, là, des bims, ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire. Alors, je serais allé en bas, je serais caché avec Lise. Puis là, mon ami, tu te caches dans ce temps-là. Pas le temps de sortir dehors, là, pour aller voir, fouiner, pour aller voir ce qui se passe dehors. Là. Tu te caches. C'est un temps de te cacher. C'est un temps pour toi d'attendre. T'attends que ça passe. Vrai? Puis là, si ça passe, mon ami, tu étais à l'abri, là. Puis t'attends que ça passe. Puis une fois que c'est passé, que c'est fini, là, tu peux sortir puis réparer les dégâts. Et c'est ce qui se passe parfois dans notre vie. Il y a des situations difficiles qui nous arrivent et tout ce qu'il faut faire, c'est d'attendre. Les chrétiens qui ne pouvaient rien faire pour se sortir de la souffrance là, avec les personnes à qui Pierre écrivait, et à cause de la persécution. Et Jacques leur dit, soyez patients. Pierre leur dit, soyez patients, même chose. C'était la volonté de Dieu que Paul attende 2 ans à Césarée. Il avait son plan. Dieu travaille toujours dans l'ombre. Il est toujours à l'œuvre. Parfois, notre rôle est simplement d'attendre. Mais Dieu veut aussi qu'on se prépare pour l'avenir. On pense à Jésus qui avait 12 ans, il rentre dans le temple. Hein? 12 ans, c'est un ado. Non, c'est 13 ans, ado officiellement. C'est quoi? 13, c'est ça, 13 ans. Hein? Mes petits-enfants étaient tellement contents d'avoir 13 ans. Je suis officiellement un ado. Parle-moi comme un adulte. D'accord. Hey, Jésus rentre au temple. Il y a 12 ans, ses parents le cherchent. Quelques jours, ils sont énervés pas mal. Ils rentrent au temple, ils le voient. Ils sont en train de jaser avec des chefs religieux et tout ça. Là. Come on, guy, qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, mais je suis en train de faire la bonté de mon père, tout ça, je suis en train de jaser, tout ça. Fait que les parents disent, non, regarde, tu t'en viens avec nous autres, là. Et savez-vous, ça a pris un autre 18 ans. Hey, 18 ans avant que Jésus commence sa mission. Et qu'est-ce que ça dit tout de suite après que les parents sont partis avec lui, à l'âge de 12 ans, Luc 2, 52? Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Hey, le Fils parfait de Dieu se préparait pour la mission que son Père allait lui confier, à l'âge de 30 ans à peu près. Maintenant, si Jésus devait grandir et attendre le bon moment, nous aussi, nous avons besoin de nous préparer en attendant. Pas vrai? T'es célibataire. Tu attends de trouver ton partenaire. Bien, quoi faire en attendant? Bien, tu deviens le genre de personne qu'un homme et une femme voudraient avoir. Et non seulement, tu deviens la personne qui va honorer le Seigneur dans sa vie de couple. Tu te prépares à être bon à marier, à être mariable. Un homme ou une femme de Dieu. Parfois, attendre nous donne une bonne occasion de nous préparer pour l'avenir. Mais parfois, Dieu a le même agenda que nous, mais son cadran, son calendrier sont différents. Hey, il s'est écoulé 400 ans entre le dernier prophète et Jésus-Christ. Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un fils et plusieurs enfants, puis même de là, il va avoir une grande nation. Mais savez-vous, ça a pris 25 ans avant d'avoir son fils. Il s'est écoulé 2000 ans depuis que Jésus a promis à ses disciples qu'il allait revenir. Et on attend encore. Et Pierre nous explique pourquoi, inspiré du Saint-Esprit, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est qu'il veut, Dieu attend que de plus en plus de gens viennent à lui pour avoir le salut, pour les sauver. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Habacuc est un beau modèle d'une personne qui savait attendre. Il a vécu un moment très difficile dans l'histoire d'Israël, alors qu'un pays ennemi, les Assyriens, reconnu pour être cruel, c'était épouvantable, et sans merci, les Assyriens qui allaient venir les attaquer. Alors Habacuc avait peur, avec raison, et voici ce qu'il dit dans Habacuc chapitre 3, verset 16. Il dit, « J'ai entendu et je suis bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. » Voici un cœur qui comprenait que chaque promesse de Dieu va s'accomplir. Et même s'il ne s'accomplisse pas présentement, notre rôle est d'attendre. Car attendre fait partie de notre parcours de foi. Alors, bien-aimés, honorons le Seigneur dans la salle d'attente de Dieu. Car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, comme c'est difficile parfois d'attendre, éprouvant même, des personnes qui souffrent, attendent la guérison ou attendent un bien-aimé. Tellement de situations, Seigneur, qui nous mettent à l'épreuve. Mais Seigneur, nous te prions que lorsque on se trouve dans la salle d'attente du Seigneur, dans ta salle d'attente, nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce, cette force de pouvoir marcher selon ta volonté et attendre ta bénédiction. Sachant même que l'attente fait partie de ton plan pour nous faire grandir, pour améliorer notre foi, pour nous préparer aussi à ce que tu prépares pour nous, cette mission que tu nous appelles. Et donne-nous de nous rappeler dans ces moments sombres de notre vie que notre vie est sous la main puissante de Dieu. Jésus.